Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début à suivre. Bruno Donnet pour ses télescopages et dans un instant, notre invité sera l'humoriste et acteur Arnaud Ducré. On va parler de son spectacle That Life et Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame que d'anglicisme. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité et Marc-Antoine Lebray pour clore l'émission. Bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe Vandel.
Tous les jours, Bruno, vous scrutez ici les réflexes médiatiques et hier, vous avez été stupéfait par la différence de traitement que vous avez observée entre TF1 et la chaîne britannique Sky News, qui ont pourtant relayé la même information.
Oui Philippe, c'est une stupéfiante opposition de style qui m'a sauté aux yeux hier. Alors, l'information en question, elle est simple, hein, elle concerne le grand nombre de migrants qui traversent la Manche tous les jours en échappant à la vigilance de la police française. Et c'est Anne-Claire Coudray qui l'a parfaitement résumé hier soir dans le 20h de TF1.
À Calais, la France et le Royaume-Uni se rejettent une nouvelle fois la responsabilité. Gérald Darmanin a reproché à Londres de ne pas avoir versé sa contribution au renforcement des patrouilles sur nos côtes.
En cause donc une somme rondelette, 63 millions d'euros que les Anglais refusent catégoriquement d'acquitter au motif que la police française ne serait pas suffisamment performante. Allons bon, une position qui a prodigieusement agacé notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Le gouvernement britannique n'a pas payé pour l'instant ce qu'il nous a promis. Donc pour l'instant, il n'y a pas un euro qui a été versé par le gouvernement britannique.
Voilà donc Philippe pour ce qui concerne les faits. Mais observons maintenant le traitement dont ils ont fait l'objet. Car du côté de TF1, on a choisi de zoomer sur les conditions de travail de la police française.
Donc on a une patrouille qui est au bout là, qui voit toute la baie.
Le postulat était simple, puisque nos policiers sont accusés de laxisme, collons-nous à eux, suivons-les avec une caméra lorsqu'ils patrouillent sur les plages et donnons-leur la parole.
Hier, on parle de 80 tentatives entre Dunkerque et la baie de Somme. Donc je ne sais pas combien ont réussi et combien ont échoué. Donc c'est très compliqué à surveiller. Donc il faut des moyens humains, des moyens aussi en matériel, lourds.
Dans le reportage de TF1, la police française explique donc qu'elle manque lourdement de moyens pour arrêter les migrants. On en déduit donc que les 63 millions d'euros qui n'ont pas été versés par le Royaume-Uni seraient vraiment les bienvenus et le reportage s'arrête là. Sur Sky News, maintenant, le traitement fut diamétralement opposé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un des journalistes de la chaîne, Adam Parson, a choisi d'angler son reportage non plus sur les difficultés de la police française, mais bien sur son manque de performance. Il faut dire que la scène qu'il a réussi à filmer est totalement stupéfiante. On y voit tout d'abord un groupe de migrants quitter une plage française. Nous avons vu ces gens, une quarantaine d'entre eux, explique le reporter, en train de porter un très grand bateau pneumatique, le mettre à l'eau, monter dedans et faire démarrer le moteur. Puis, on découvre que cette séquence s'est déroulée sous les yeux d'une patrouille de police qui les a donc laissés filer sans intervenir.
Ils ont fait ça sous le nez de la police française. Il y avait une unité positionnée sur la plage et ils regardaient. Et il y avait un hélicoptère qui observait. La police française a tout vu et n'a rien fait.
Voilà, alors, la voix que vous venez d'entendre, assurer la traduction, Philippe, c'est celle de France 2. Car le reportage de Sky News a fait tellement de bruit que même le 20h de la deuxième chaîne a choisi d'en s'en faire l'écho hier soir. Il faut dire qu'après le départ des migrants, une caméra a également saisi leur arrivée côté anglais cette fois et que l'interview d'un des passagers du bateau avait de quoi surprendre.
La police française a essayé de vous arrêter ?
Non, la police n'a rien dit, parce qu'elle n'est pas dangereuse comme dans d'autres pays.
De ces images britanniques, TF1 n'aura pas donc dit le moindre mot hier soir où l'on comprend, Philippe, que le chauvinisme médiatique existe bel et bien et qu'une information, selon qu'elle est regardée d'un côté ou de l'autre de la mer, peut-être une toute autre paire de manches.
Merci Bruno Donnet pour cet éclairage, c'est le cas de le dire. À demain. Culture Média va continuer dans un instant. On sera vers 10h30, je vous parlais d'un livre formidable sur la scène humaine française. Mais d'abord, on sera avec Arnaud Ducré qui va nous parler de son spectacle That's Life. Et tout de suite, musique avec un duo entre l'icône de la pop britannique Elton John et la chanteuse Dua Lipa. Ça s'appelle Cold Heart sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.
Strong.
Some things look better, baby, just passing through.
Earth, c'était Elton John en duo avec Dua Lipa sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Arnaud Ducret.
Bonjour.
Comédien, humoriste, le grand public, vous avez découvert sur France 2 dans Part en mode d'emploi. On vous a vu au cinéma dans Divorce Club, Les Profs, Mine de Rien, mais aussi dans le téléfilm d'M6 sur Xavier Dupont de Ligonnès et la série TF1 Mensonge. Ça, c'est plus récent encore avec Audrey Fleureau. Votre actu, c'est That's Life, nouveau one-man show la Gaîté Montparnasse, au théâtre Gaîté Montparnasse, puis tournée dans toute la France. Vous remontez sur scène, c'est votre premier one-man depuis 5 ans. Et vous commencez par ça, c'est dingue le chemin que vous avez parcouru en 5 ans.
Ouais, ouais. Bah, je dis voilà, il y a 5 ans j'étais 3e rôle au cinéma, je faisais Vendredi tout est permis, et maintenant je suis la chance d'être 1er rôle au cinéma et de jouer Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, donc voilà. Voilà, il n'y a rien en commun à part peut-être des corps penchés, mais sinon, ouais. Sinon voilà, et ça démarre comme ça, et donc j'ai tellement de choses à raconter de ma vie, et en fait ça ressemble aussi à la vie, les gens se retrouvent beaucoup dans ce que je raconte, parce que il y a des personnages que je joue qui sont, que tout le monde a dans sa famille ouais. ou a croisé une fois dans sa vie.
Il y a des cousins et des beaux-frères qu'on a déjà eu
voilà,
parfois dans
oncles,
la famille.
Voilà, des oncles, mon oncle Gérard que j'aime tant et que dont je parle. Voilà.
Ah bah tiens, puisque vous en parlez, on va entendre une sorte de florilège, on ne peut pas dévoiler le spectacle. Vous parlez d'alcoolisme, de votre famille et aussi de votre tante Josiane.
Dans ma famille, on n'est pas des alcoolos. Non, non, on est des bons vivants, voilà. On est des bons vivants, c'est la catégorie juste avant. C'est la catégorie qui t'excuse de tout, le bon vivant, tu vois. Tu peux pisser dans la piscine, montrer ton cul à la voisine, coucher avec ta sœur, tant que c'est drôle, t'es un bon vivant. C'est vrai que le jour où j'ai présenté ma famille à Claire, je peux te dire que je lui ai dit « Bon, Claire, te formalise pas, mais à 22h, tout le monde a la gueule un peu rouge. Hein. » Bah, quand elle les a vus, elle m'a dit « Ouais, mais tu m'avais pas dit qu'ils clignotaient. » Josiane, bah, déjà le prénom, tu sens que ça peut être les soirées de l'ambassadeur. Des fois, elle nous dit, on se marre, parce qu'elle fait « Oh, je comprends pas, putain de bordel, attends, j'ai une gueule, j'arrive pas à perdre, là, je bouffe rien, là, je dois faire de la rétention. » Je lui dis « À ce niveau-là, c'est un barrage. Hein. »
Alors Claire, elle existe, on va en parler, c'est votre
Josiane,
épouse,
Josiane
votre
aussi.
Épouse, elle existe, ah mais, elle existe Josiane.
Ah Josiane, elle existe. Mais...
Ah, j'ai pensé que c'était un personnage de fiction,
non, non, j'ai une Josiane...
mais c'est pas possible.
Non, Josiane existe, alors évidemment après je tire les traits parce que
non,
je
mais quand
cherche...
même, si elle s'appelle vraiment comme ça, comment elle peut aller à la boulangerie ensuite?
C'est ça, bah, Josiane, hein, voilà, ça peut être les soirées de l'ambassadeur comme je dis. Mais non, non, tout ce... alors après vous savez ce que c'est, hein, on tire les traits.
On force le trait, bien sûr.
Le trait, voilà, on force ouais. le trait pour choper le rire.
Ouais.
Et voilà, mais des fois on est pas loin de la vérité en fait.
Voilà. Mais c'est quoi alors la différence entre bon vivant et alcoolique?
Bah, si vous voulez, par exemple, comment vous dire, tiens, par exemple, l'alcoolo, il sait pas comment il est rentré chez lui, et ben l'homme bon vivant, il sait pas qui l'a ramené. Voilà, c'est la toute petite différence. L'alcoolo, il sait pas, il a foutu ses clés. Le bon vivant, c'est celui qui les a planqués. Voilà.
Ils ont vu le spectacle, Gérard et Josiane, ou pas encore?
Non, mon Gérard, il a pas vu le spectacle, mais ses enfants l'ont vu, ça les a fait marrer. Alors, mon oncle Gérard n'est pas comme ça, évidemment, mais il est un peu, il y a un peu de ça. Enfin, je tire des choses, je fais un petit mélange et je sors ces personnages.
Alors, c'est quand même parfois très, très personnel, puisque
oui.
vous racontez votre récent mariage.
Oui.
Vous avez épousé une danseuse de pole dance que vous avez rencontrée sur le tournage des émissions d'Arthur.
Oui.
Déjà, la mise en garde au public. Danseuse de pole dance. Dites ce que vous dites, moi j'oserais jamais le dire.
Non, non,
j'oserais jamais le dire.
J'ai dit juste, si vous voulez. Mais non, alors ma femme l'a validé. Hein,
ouais.
m'a dit, mais je te l'ai dit.
Et vous êtes tout rouge, vous êtes tout rouge.
Non, non, mais parce que des fois à la radio comme ça, les gens vont se dire, mais attends, mais parce qu'en fait, je dis aux gens et les gens se marrent, c'est que je dis, bah ma femme, je l'ai rencontrée sur Vendredi tout est permis, elle fait de la pole dance, vous voyez ce que c'est, hein, c'est avec la barre, elle est en body, elle danse autour, et je regarde les gens, je dis, ah ouais, je sais ce que vous dites, hein, ah ouais, c'est une pute. Ouais, ouais, mais non, 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 pas du tout. Vous l'imaginez sur un bar avec les pieds qui collent, un billet de 50€ dans la culotte, mais pas du tout, c'est beau ce qu'elle fait. C'est circassien, c'est magnifique. Et voilà, et après, je pars sur le sketch de la pole dance.
Elle l'a validé?
Elle l'a validé, je lui ai dit, oh tu sais, je lui ai dit, t'es sûr, parce que ça fait un peu... Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est comment vous l'amenez, quand tout d'un coup, les gens, quand je leur dis, je mets en abîme et que je dis, voilà, body, elle fait des trucs, elle fait des combos, des trucs, des drapeaux autour de la... Tout le monde me regarde avec le sourire, et les gens, la plupart, pensent ça.
Alors, c'est une adulte, votre femme. Vous mettez aussi en scène dans le mariage, dans la corbeille du marié, il y a 3 enfants qu'elle avait, des triplés. Il y a le vôtre, qui s'appelle Oscar, si je me souviens bien. Et là, vous mettez en jeu des enfants qui sont ados. Ils ont quel âge, tous ?
Alors, eux, ils ont 16 ans. Et mon fils, il a 9 ans. Voilà. Mais
Et ça les fait marrer ?
Ah, ça les fait, ça les fait vraiment marrer. On était, bien sûr, ils aiment bien, ça leur plaît que j'en parle. D'ailleurs, hier soir, en rentrant, je leur ai dit qu'il y avait des vannes qui marchaient très, très bien. Ils sont triplés et bilingues, donc je comprends rien, mais 3 fois plus. Voilà, je dis les triplés qui ne se ressemblent pas, ça sert à rien. C'est comme un nain d'1m60, tout le monde s'en fout. Voilà.
Parce qu'il faut dire que les triplés, c'est pas les triplés de Nicole Lambert dans le Figaro Magazine.
Non, pas du tout. C'est comme dit le médecin, vous me direz qui sont les pères, il n'y en a aucun qui se ressemble.
Voilà. Comment c'est possible ça ?
C'est fait, c'était pas les mêmes œufs, quoi. Donc voilà, quoi. Mais ils sont adorables et je les adore.
Vous parlez de votre femme, Claire, de sa musculature, mais ce que vous dites sur elle, moi j'en reviens pas, donc puis-je dire la chose.
Je dis qu'en fait elle est magnifique, elle a les grands cheveux blonds, comme réponse, vous savez, elle est très très belle. Elle a été 6 ans en Crazy Horse avant, donc je me suis pas trompé. Et je dis oui, effectivement, elle a une plaque d'abdos, elle a des bras, elle est musclée, elle a des bras. Des fois j'ai l'impression de faire l'amour à un pote. Et donc voilà, qui s'appelle Francis. Voilà, et donc ça fait beaucoup rire les gens, et je dis mais non, je plaisante, hein, personne n'a un pote qui s'appelle Francis.
Voilà, c'est vrai. Il y a plein de séquences savoureuses. Vous racontez pas votre enfance, les séquences savoureuses, je me les garde pour plus tard.
D'accord.
Et votre enfance, ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre, puisque vous en parlez vous-même, Lisa Marie Marquez arrive, c'est le portrait pré-fame, Culture Média continue en compagnie d'Arnaud Ducret.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du comédien et humoriste Arnaud Ducret pour son spectacle That's Life. Et justement, c'est la vie. On va mieux le connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Arnaud Ducret. Vous savez danser, mimer, chanter, imiter, bien sûr jouer. Arnaud Ducret, vous savez tout faire. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Arnaud Ducret, vous êtes né à Rouen et vous avez grandi à Petite Couronne en Normandie. Enfant, votre maman a beaucoup de mal à vous canaliser. Vous débordez d'énergie. Petit, vous lui dites, devant les affiches de films des cinémas, « Un jour, tu verras maman, ce sera moi sur l'affiche ». En fait, c'est elle qui vous a transmis la fibre artistique. Elle qui aurait aimé intégrer le Big Bazar de Michel Fugain. Elle vous amène voir des spectacles, Vincent Lagaffe ou Pierre Palmade quand il passe en Normandie. Elle vous laisse aussi lui emprunter sa laque pour vous en servir de micro refaire les shows de Michael Jackson dans le salon.
Puis je prenais la laque, c'est des bonbons dorés, la Deloria, et je faisais comme si je recevais un Oscar. Je prenais la bombe comme c'était doré, j'assimilais ça à un César et un Oscar, et je faisais un discours.
Arnaud Ducret, très tôt, vous vous mettez à imiter ce que vous observez ou entendez. L'une de vos premières imitations, c'est la voix de Kit, la voiture futuriste de la série K2000.
Ah ouais. Je rêvais d'avoir cette voiture. Un jour, je me l'achèterai.
C'est vrai ?
Ouais, je pense qu'un jour, je me l'achèterai. Elle sera dans mon garage, mais j'aurai K2000. Voilà, ce sera mon rêve de gosse.
Vous pouvez nous la faire, la voiture ?
Le bruit, c'est... Avec la porte, quand elle passait, ça faisait... Voilà.
Arnaud Ducret, vous avez toujours voulu devenir comédien et faire rire parce que ça vous ouvre aux autres et ça crée de l'amour. Le comédien qui vous donne envie de faire de la scène, c'est Albert Dupontel que vous découvrez à la télévision dans ses sketchs, notamment celui de Rambo. Vous réalisez qu'on peut faire des imitations sur scène et en vivre.
Ouais.
À l'école, vous n'êtes pas un bon élève et vous êtes un peu ingérable. Vous passez votre temps à...
On s'y attendait pas du tout.
Pas du tout.
En le voyant.
Étonnant.
Là, vraiment, je tombe de ma chaise.
Vous passez votre temps à imiter vos professeurs, à faire le clown. Vous faites parfois tellement rire le prof que vous réussissez à le faire sortir de la classe.
C'est ma prof de français qui me disait un jour que elle me disait Arnaud, tu arrêtes. Et en fait, comme je lui expliquais ou que j'imitais tout d'un coup ce que je venais de faire et tout, donc elle riait. Et donc elle me disait bon, mais bien, elle ne me sortait pas, en tout cas moi, de la classe, mais elle s'est tapé des... elle riait. J'ai réussi.
Vous finissez par vous faire renvoyer du collège public. Vous entrez dans un collège privé où la directrice vous incite à faire du théâtre. Pour vous, c'est une révélation. Vous retenez les textes alors que vous n'arriviez pas à vous souvenir des cours de français ou d'histoire.
Ouais, c'est vrai ça. J'apprends très très vite, par exemple. C'est fou ça, mais j'apprends hyper vite. Je suis très précis dans mon travail, logiquement. Enfin, voilà, je bosse. Mais dans la vie de tous les jours, même là, encore maintenant, j'ai des gros problèmes à faire des...
Par exemple
C'est-à-dire que très vite, je peux me divaguer, penser à autre chose. Et donc, ma femme me regarde en me disant « Tu m'écoutes pas là ? Hein ? Pardon ? Si. Ouais, je me fais disputer.
À la fin de l'année, vous faites un spectacle avec le groupe de théâtre et la directrice dit devant tout le monde Retenez bien Arnaud Ducré, il aura une grande carrière. Et ce n'est pas tout. La fille que vous aviez draguée toute l'année sans succès vient vous parler à la fin du spectacle. Ouais. Et ça, c'est la classe.
Ah, ça, c'était beau. Je me rappelle toujours, on était devant l'école et elle me regarde. Et j'étais la petite star de la journée, quoi, parce que j'avais fait des trucs, ça avait beaucoup fait rire. Et puis elle me regarde, elle me fait « Tu fais quoi, toi, cet été ?» Et là, je me suis dit « Waouh, je vais faire ce métier
wow. !» Voilà. Plus faire le métier que partir l'été avec la fille.
Ouais, non, mais c'est que je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc tout d'un coup, je deviens intéressant.
Adolescent, votre sœur vous pousse à rejoindre sa troupe de comédie musicale. Mmh. Vous intégrez donc le Broadway Gospel Group de Sotteville-lès-Rouen. Ouais. Sotteville-lès-Rouen.
Sotteville-lès-Rouen. Sotteville-lès-Rouen. Ouais.
Et vous devenez choriste. Vous apprenez à vous servir de votre voix et à danser. Vous répétez dans le préau d'une école. Vous chantez dans des maisons de retraite. Et avec la troupe, vous accompagnez la chanteuse Jean Manson sur scène. Et vous faites à ses côtés votre première télé en tant que choriste. Mmh. Avec le groupe de gospel, vous êtes aussi soliste sur cette chanson.
Yeah. Lionel Richie. Mmh. Yeah. Ah, c'est pas Lionel Richie qui chante, je pense, là. Mmh. Ah, j'ai plus le... j'ai un peu enroué, en plus. Ouais, très bien, j'adore.
Et puis Arnaud Ducré, vous partez poursuivre votre rêve à Paris. Vous vous installez d'abord en coloc, en banlieue, dans un appartement tellement humide que l'eau coulait le long des murs.
Ah, vrai, 80% d'humidité, les mecs n'ont jamais voulu réparer. Et j'avais des textes que je bossais, tu sais, pour le Conflans où j'étais. Ouais. Et quand je laissais le livre ou la feuille à côté de mon lit avant de m'endormir, je relisais. Et ben le lendemain, la feuille était ondulée d'humidité. Et mon pote Romain, que j'aime tant, que j'embrasse, avait des champignons sur le buste qu'il n'avait pas eu avant. Non, mais un truc. Ma mère est sortie, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle avait pleuré dans la voiture en disant il vit dans une cave.
Non, ce qui me fait marrer, c'est l'anecdote sur votre pote qui a des champignons sur la poitrine. Le mec qui balance les doses.
Non, on s'en fout, il se retourne. C'est quoi ça? Et en fait, c'était dû un peu à cette humidité improbable qu'il y avait dans la...
Super la coloc avec Arnaud Ducré.
Vous suivez des cours de théâtre au cours Florent, vous faites des petits boulots, vendeur dans un magasin de gadgets, vous doublez des films porno, vous le racontez sur scène, et vous êtes aussi serveur dans un restaurant de la rue Montorgueil. Mmh. Et Arnaud Ducré, lorsque vous êtes serveur, vous ne savez pas ce que sont les pommes de terre sarladaises.
Ah, oui, c'est là. Oui, je le sais. Alors, c'était la grande blague de mon pote qui venait à chaque fois. Il me dit, c'est quoi les pommes sarladaises? Et je faisais pommes de terre revenues dans la graisse d'oie avec de l'ail, champignons et un peu d'herbe.
C'est la bonne recette.
Voilà. Oh, c'est bon.
Comme tous les étudiants, vous profitez de votre temps libre pour faire la fête. Un soir, vous êtes en boîte de nuit, à une soirée, et dans le carré VIP, il y a Jamel Debbouze. Avec vos potes, vous tentez de rentrer vous aussi, mais vous vous faites refouler, vous devez rester de l'autre côté de la barrière, et vous dites à vos copains, un jour, ce sera nous, dans le carré VIP.
Ouais, c'est vrai. J'ai un jour, on me paiera pour que j'aille en boîte.
Ouais. Et c'est arrivé ou pas?
C'est arrivé une fois, oui, qu'on m'a payé pour que je vienne. Mais sinon, oui, j'aime bien aller en boîte, j'aime bien un peu le milieu de
c'était
la nuit.
C'était pourquoi? Je ne veux pas demander la marque et l'argent, mais j'ai expliqué, il y a plein de stars qu'on voit dans les boîtes de nuit qui sont payées par la marque, par des bijoutiers, etc.
Non, pas du tout, moi ça m'est arrivé une fois, c'était la boîte elle-même qui savait que je passais, elle m'a dit ça nous ferait plaisir que vous veniez, voilà, bon ça a été, je ne l'ai fait qu'une fois, sinon c'est moi qui paye d'habitude.
Arnaud Ducré, vous êtes très déterminé, vous avez un objectif, devenir comédien, vous décidez un jour d'arrêter de sortir pour vous concentrer et pour réussir, vous courez alors les castings, M6 vous repère et vous propose de faire des happenings dans le Morning Live, l'émission culte avec Michael Youn. Vous y faites une rencontre déterminante, Jérôme Commandeur. Vous le retrouvez ensuite dans la matinale de Rire et Chanson où vous écrivez des sketchs différents tous les jours.
On faisait 3 heures de sketchs, enfin, il y avait 3 heures d'émission et on devait faire des sketchs tous les jours. Ils nous demandaient non rediffusables. C'est-à-dire que vous connaissez, chaque heure doit être un nouveau sketch. Et on en faisait 2-3 par heure. Donc c'était.
Oh là là.
Alors il y a eu des ratés. Et c'est la première fois dans ma vie, je ne sais pas si vous le savez, où je fais un malaise. Je me rappelle toujours un matin, j'étais avec Jérôme, on écrivait. Et je lui dis, voilà, attends, je me sens pas bien là, je vais tomber. Et je me suis allongé par terre parce qu'on était en surmenage total, mais on bossait. Par contre, j'ai rencontré Jérôme, que j'aime tant et ça m'a tellement apporté.
Vous apparaissez dans le nouveau Caméra Café où vous reprenez le rôle de Jean-Claude Convenant.
Ah bah voilà. D'où le Jean-Claude.
Voilà. Vous décrochez des seconds rôles. En parallèle, vous écrivez votre premier spectacle, votre premier one-man show que vous commencez à jouer dans une salle de 22 places.
Ah ouais, 22 places avec la loge, s'appelle, la petite loge d'ailleurs, je crois, rue La Bruyère à Paris. Et j'étais moi dans le hall de l'immeuble, dans le local à poubelle. Donc c'est-à-dire que j'ouvrais la porte et j'arrivais sur scène. Mais derrière, c'était le local à poubelle où il y avait un toilette. Et tous les jours, je vous jure que c'est vrai, je me rappelle, on en croirait Princesse Sarah pour ceux qui connaissent le dessin animé, j'avais une souris qui venait me voir à chaque fois que je jouais. J'avais une petite souris, je vous jure que c'est vrai, une petite souris qui était là. Alors je la regardais, puis elle... elle me regardait. Et puis après, je la regardais, je lui parlais un peu. J'ai dit, bon, là, salut, toi, t'es là. Et puis après, j'ai dit, bon, bah, je te laisse, hein, je vais jouer, quoi. Et donc, j'allais jouer. Il y avait une souris qui était là. À chaque fois, c'était drôle. Voilà, pour la petite histoire.
En 2013, vous entrez dans le Salon des gens avec la série Parents mode d'emploi sur France 2 et aussi avec Vendredi, tout est permis, l'émission d'Arthur sur TF1. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là.
Merci.
C'est Arnaud Ducret qui nous fait Mariah Carey. C'est Mariah Carey, Fame.
Non, pas du tout. Bah non, Fame,
c'est Irène Cara, je me trompe.
Mais non, Fame, c'est Fame, c'est la meilleure comédie musicale.
Oui, ça je le savais, mais la personne qui chante, c'est Irène Cara.
Ah oui,
et pas Mariah Carey.
Pas Mariah Carey, voilà. Non.
Mais j'avais quand même les consonnes, j'avais pas les voyelles. Merci beaucoup. Merci Lisa
merci,
Marie.
Merci beaucoup.
On se retrouve demain, Arnaud Ducret, on se retrouve dans quelques instants. On marque une courte pause dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du comédien et humoriste Arnaud Ducret, votre nouveau spectacle, nouveau one-man show, c'est au théâtre de la Gaîté Montparnasse, s'appelle That Life. Puis ça sera en tournée en toute la France. Vous avez les horaires? Moi, je ne les ai pas, les horaires.
Les horaires, c'est du mercredi au dimanche, 21h le soir, et le samedi, dimanche, 16h30 et 21h. Enfin, samedi, 16h30, 21h. J'ai plus de vie.
Ouais, quand on fait ce métier, c'est ça. On peut classer les gens en deux catégories dans ces métiers.
Ouais.
Il y a ceux qui bossent trop et ceux qui bossent pas assez.
Voilà.
Mais personne ne bosse normalement dans nos métiers.
C'est vrai, t'as raison. C'est exactement ça.
Il y a une séquence savoureuse et là je m'adresse à tous les gens qui se remettent à aller voir des artistes sur scène et ils ont raison d'aller voir des artistes sur scène. C'est ce qu'il ne faut pas dire à un artiste qui vient de sortir de scène.
Mais parce que je dis aux gens c'est un spectacle d'humour donc voilà, riez.
Oui.
Parce que je dis la dernière fois et c'est vrai, une fois je sors de scène, il y a une dame qui vient me voir qui me dit ah, j'ai adoré mais j'ai pas osé rigoler. Donc voilà, je lui dis mais ça n'a pas de sens, c'est un spectacle d'humour, c'est comme oui. Si le chirurgien sortait du bloc opératoire en me disant "Madame Chessin, j'ai fait qu'un seul nichon, le deuxième j'ai pas osé."
Ouais.
Voilà, donc il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce qu'en plus on est sensible. Par exemple, ne dis jamais à un artiste quand on sort de scène, ne dis jamais "Oh là, qu'est-ce qu'on s'est marrer, bon, en même temps je suis bon public, hein. D'accord, donc voilà, donc
demain, mais il y en a qui vous l'ont dit ça.
Ah ouais, bon, demain je fais l'hélicoptère avec ma bite, c'est une standing ovation, quoi, c'est à dire que ça n'a pas de sens, quoi. Donc ouais, il y a des choses qu'il ne faut pas dire.
Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup parce que il y a du léger, puis il y a du plus profond, il y a de la réflexion, il y a des petits gags, et vous sortez à un moment donné la sulfateuse quand vous décrivez les antisystèmes qu'on peut trouver sur Twitter ou sur YouTube, les gens qui se prennent pour des penseurs et des philosophes.
Les fameux nouveaux penseurs, quoi.
Ouais.
Les, voilà. Bah, donc, mais d'ailleurs, on ne s'est jamais auto-approprié le je suis. Vous savez, on sait d'où ça part, je suis. Hein, voilà. Donc, je suis Charlie. Là, il n'y a pas du tout à revenir là-dessus. Mais je suis Charlie, je suis Liban. Puis alors maintenant, c'est devenu tout n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui se fait écraser à Londres, je suis piéton, quoi. Il y a le boulanger qui a plus de farine, je suis baguette. Enfin, voilà. Et les nouveaux penseurs. Les nouveaux penseurs, c'est les mecs, antisystèmes. Enfin, les nouveaux penseurs. Il va falloir m'expliquer comment on est passé de Voltaire à Socrate pour finir avec Jason de Grenoble.
Ouais.
Donc voilà, mais et je décris un peu ces trucs où les mecs te parlent, ils font toujours des vidéos dans leur bagnole, t'as vu ? Jamais de bureau, et pas de bureau, pas de maison.
Vous savez quoi ? J'ai regardé une vidéo hier, je me suis dit mais pourquoi ils sont toujours dans leur bagnole, dans leur voiture
côté passager, et ils te refont la vie. Alors ils te parlent du anti-système et tout, et alors ils te racontent la vie, mais tu te tapes des barres parce que tu ne comprends pas ce qu'ils te disent. Et voilà, donc j'en ai fait un petit clin d'œil dans le spectacle, effectivement, quoi.
Vous nous faire une minute comme ça ?
Oh bah non, mais c'est il y a un moment, faut taper sur la c'est Jason de Grenoble, 3800, le sang, la famille, toi-même tu sais, le sang. Alors ça c'est toujours un truc. Et puis voilà, c'est le mec qui dit ouais, le président Macron, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit faut mettre des masques et tout. Donc je fais tout un truc là-dessus, mais faut venir voir le spectacle. Je vais pas vous le faire, mais ouais. Mais voilà, c'est tout un truc, quoi.
Pourquoi ça vous énerve?
Non, mais c'est surtout que maintenant, si vous voulez, comment dire, les gens, il y en a, voilà, il y a des mecs qui font, je sais pas vous dire, qui vont faire 20 vues et qui disent ouais, je suis contre. T'as vu là ma vidéo, j'ai fait 200 vues. Là, ça va chier. Là, je vais remettre le système en cause et tout. Donc voilà, c'est pas ça. C'est que je trouve que des fois, tu les écoutes, t'as envie de leur dire mais tais-toi, quoi. Et d'ailleurs, je le dis, il y a le bouton, je trouve, sur le réseau, le bouton j'aime. Et le bouton commentaire, je trouve qu'au milieu, il devrait y avoir le bouton ferme ta gueule. Voilà. Et je pense qu'on en distribuerait beaucoup des ferme ta gueule.
Alors, Lisa Marie Marquez l'a dit, il y a aussi les doublages de films porno. Je ne vais pas vous le faire raconter ici. Ce qui est vraiment le plus savoureux dans ce moment-là, ce sont les bruitages. Il y a aussi une séquence avec votre fils Oscar qui veut vous parler. Il a un truc à vous dire. Et on l'entend en plus vous parler.
Ouais.
On ne l'a pas en vidéo.
Non, je l'ai enregistré.
Mais on a sa voix.
Ah, allez-y.
Non, mais dites ce qu'il veut vous dire parce que il a quel âge d'abord ?
Il a 9 ans. Et en fait, surtout, c'est que That's Life, le spectacle, c'est parce qu'en fait, c'est la vie, ça parle du temps qui passe vite. C'est ça aussi mon spectacle. C'est beaucoup ça, le temps qui passe vite et qu'il faut profiter de l'instant présent, ce qui n'est pas évident. Mais il faut profiter de l'instant présent. Et je dis, moi, tous les jours, mon fils me ramène à un truc où je me rends compte que ça va vite. Et l'autre fois, je rentre à la maison et il veut me parler d'homme à homme. Il me dit, papa, viens t'asseoir, faut que je te parle d'homme à homme. Voilà. Donc je lui dis, on va se parler d'homme à petit mec déjà.
Ouais.
Et il me dit, j'ai l'impression que le temps passe vite, j'ai l'impression que le CE1, c'était hier. Je dis, enfin, c'était il y a 2 ans, hein, c'est pas non plus. Et je fais tout un truc.
Parce que cette séquence, on l'entend dire ça, en fait, c'est quasiment lui qui l'a construite, cette séquence.
Ouais,
ou est-ce que c'est vous qui avez réécrit?
Non, j'ai réécrit, mais c'est des choses qu'il me disait. Par exemple, un jour, comme tous les parents savent, mon gamin Morgan, il dit, papa, t'as les cheveux gris. Tu vis? Bah, je dis oui, je lui explique en fait. Mais tu vas mourir. Bah oui, je vais un jour, je vais mourir. Enfin voilà. Et c'est un peu, c'est tout ce petit moment que j'ai. Et j'ai enregistré la voix d'Oscar. Et j'ai mis une demi-heure, je pense, parce qu'il était au taquet de dès que je lui disais, tiens, fais le plus joyeux, mais un peu de nostalgie. Le gamin, mon fils, il balançait. Et donc j'ai ce passage avec lui qui est très beau à la fin. Enfin, en tout cas moi qui me touche parce que j'ai tous les jours mon fils avec moi sur scène.
J'ai oublié de vous demander si votre maman a vu le spectacle.
Ma mère a vu le spectacle.
Est-ce qu'elle a bu un coup de rosé après?
Non mais ce truc de servir un petit coup de rosé, c'est que ma mère en fait, j'adore ma mère, elle est extraordinaire et je la connais quand je prends l'avion ou ce genre de choses, elle aime bien que je l'appelle pour lui dire t'inquiète pas, j'ai atterri, je suis arrivé, j'ai 42 ans mais bon c'est ma maman, faut que je l'appelle. Donc je sais que ma mère, et un jour je l'entends au téléphone qui me dit c'est bon t'es arrivé, je suis ouais maman c'est bon j'ai atterri, et en fait elle ne raccroche pas le téléphone tout de suite et je l'entends, elle me fait bon. Toute contente, elle fait bon, ils sont rentrés. Tiens, serre-moi un petit coup de rosé, Patrick. Et donc, ce serre-moi un petit coup de rosé, Patrick, j'ai dit, ça m'a fait tellement rire que j'en ai fait un gimmick de ma mère qui dit tout le temps, pour n'importe quoi, serre-moi un petit coup de rosé, Patrick.
Et ça marche. Ouais. Pour avoir vu le spectacle, la captation, ça fonctionne. Vous restez avec nous, on va parler de musique, Arnaud Ducret. Dans un instant, c'est mon indispensable à moi. C'est un livre ultra documenté sur la scène New West française des années 78-88. Dit comme ça, ça paraît hyper pointu. Et vous allez voir que vous connaissez plein de tout. Rêves. Vous allez même pouvoir chanter en même temps. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Arnaud Ducret, That's Life, c'est son nouveau one-man show au Théâtre Gaîté Montparnasse. Et il y aura une tournée dans toute la France. Je vais parler de musique parce que j'ai découvert un livre formidable qui vient de sortir. C'est un livre, enfin, c'est presque une bande-son. C'est à la fois pour les plus jeunes et pour ceux qui n'ont pas connu. Vous êtes dans quelle année?
78, Off the Wall, Michael Jackson, meilleure année.
Alors, c'est pour vous. 78-88, une jeunesse moderne. C'est les groupes qui étaient d'abord dans les petits coins, dans les bars underground de la France et ensuite. Top 50, vous allez comprendre. C'est un livre qui est signé, s'appelle French New Wave, la nouvelle vague française. C'est signé Jean-Emmanuel Deluc, je ne le connais pas, on dirait un pseudonyme, je ne sais même pas s'il existe en vrai, et c'est aux éditions Fantasque. En tout cas, c'est un vrai livre très documenté, avec des photos, des interviews, des détails de partout. Ça raconte une génération de musiciens inspirés par le punk, par le post-punk, totalement minoritaires au départ dans leur coin. À la fin des années 70, je raconte pour vous qui étiez jeune, le rock français passait quasiment jamais à la télévision, quasiment jamais sur les grandes radios. Et pourtant, ces groupes, ces chanteuses sont passés de l'underground au grand public, comme en 84. C'était un petit Rennais qui payait pas de mine, Étienne Dao, souvenez-vous. Ah
oui. Lorsque je rêvais, tu es tout près de moi. C'est la seule façon de rester avec toi.
Vous connaissez ça?
Bah, je connais un peu, mais j'aime bien parce que le bassiste il slappe derrière.
Mais ouais, j'aime bien. Mais oui, ça, c'était l'époque. Ouais. C'est Le Grand Sommeil, tiré d'album du même nom, deuxième album d'Étienne Dao, qui faisait de la musique avec ses potes de Rennes et qui est toujours présent, qui n'a quasiment jamais quitté le devant de la scène. Autre groupe qui a survécu à toutes les modes, Indochine, on est en 82, c'est L'Aventurier sur leur premier album.
J'ai pas les paroles.
Ouais. C'est Jérémy Hébert, notre réalisateur, qui a fait un montage parce qu'il y avait un pont. Quelle carrière, Indochine, c'est pas fini. Ouais. L'album date de 89, c'est-à-dire que le groupe va bientôt fêter ses 40 ans, l'un des rares groupes à remplir le Stade de France. Ah et ce qui est complètement fou, c'est qu'à part Nicolas Sirkis, le chanteur, certains membres du groupe n'étaient pas nés quand ce titre était sorti. Alors, dans ce livre, parce qu'on parle d'un livre, il y a les chanteurs à succès, il y a aussi les chanteurs cultes comme Daniel Darc, vous savez qui c'était?
Daniel Darc, ça me dit quelque chose, mais...
Il est mort il y a 4 ans, certains ne savent peut-être pas que Daniel Darc avait commencé sa carrière dans un petit groupe parisien branché qui remplissait une petite salle, le Rose Bonbon, Taxi Girl est leur titre emblématique, Chercher le garçon.
Chercher le garçon. Ah, lui, il était punk, hein, lui.
Ouais.
Lui, c'était un punk.
Il était post-punk en même temps.
Ouais.
Parfois, il dormait quasiment dehors, tellement qu'il était défoncé.
Ouais, c'était fou.
C'était complètement dingo. Il a plongé dans la drogue, le groupe ne s'en est jamais remis. Ouais. Je l'ai dit, il est mort en 2013 après une carrière solo. Et dans ce livre, c'est assez impressionnant le nombre de gens qui sont, comme dit l'auteur, tombés pour la France. Daniel Darc, donc, donc Pierre Volson, le batteur justement du groupe Taxi Girl que vous étiez en train de mimer, Olive du groupe Lily Drop, Stéphane Sirkis, le jumeau de Nicolas du groupe Indochine, Guillaume Israël du groupe Modern Guy, Marie Girard du groupe Marie les Garçons des Lyonnais. La liste, hélas, est longue. Et puis il y avait aussi Fred Chichin, David Mitsuko, ouais, en duo avec Catherine Ringer. C'est peut-être le groupe le plus emblématique de ces années-là. Le seul à l'époque que les Anglais nous enviaient, Rita Mitsuko, je ne veux pas dire.
J'étais en soirée hier, samedi, avec mes copains. Ils ont passé Rita Mitsuko. Je disais à mon pote, t'as vu, c'est quand même pas... C'était vraiment... Enfin, c'est bien. J'ai
exactement.
Et tout le monde dansait comme des lingues. C'est un super musicien.
Rita Mitsuko. J'adore que vous ne connaissez pas les paroles, mais vous avez le groove, vous avez le ton. À l'époque, les Rita Mitsuko, c'était le seul groupe français qui arrivait à réunir le public branché et le public populaire. Il passait aussi bien dans Les Enfants du Rock que chez Michel Drucker. Et ce livre raconte aussi le destin de gens beaucoup moins célèbres. Et pourtant, on les connaît sans pouvoir tout à fait citer leur nom. Par exemple, le duo parisien Élie et Jacquenot. Je ne sais pas si vous les connaissez.
Non.
Ils ont fait plusieurs disques qui n'ont pas vraiment dépassé le stade du succès d'estime. Et puis Jacquenot aussi a fait un album solo avec un titre Rectangle qui est presque devenu un hymne. C'est quelque part entre Kraftwerk et Giorgio Moroder. Mais en plus simple, Giorgio Moroder, c'est le type qui avait fait la musique de Midnight Express.
Everybody call me Giorgio.
Voilà. Non, non, c'est un autre. C'était un musicien allemand qui avait fait la musique de Midnight Express et aussi I Feel Love avec Donna Summer, la première musique avec des séquenceurs qui étaient du disco.
Ah oui.
En tout cas, là, c'est Jacquenot, Rectangle, deux accords, une boîte à rythme. C'est minimaliste. C'est très minimaliste. À l'époque, quasiment personne ne connaissait le nom de Jacquenot dans le grand public. Et pourtant, quasiment tout le monde et tous les enfants connaissent cette musique. C'est générationnel, car elle avait été reprise dans la publicité Nesquik.
Ah bah, c'est vrai que ça fait très cantine.
Et le slogan de l'époque, c'était cantine. Le gros Quick veut son Nesquik. Vous vous souvenez de ce slogan-là?
Ah, ouais. Ah peut-être, je sais.
Et
plus.
On voyait un personnage qui était une sorte de Casimir, mais jaune. C'était le gros Quick. Il prenait le Nesquik. Quick. Il y avait cette musique, personnage qui a été abandonné avec les années 90 et puis l'injonction de chasse aux calories pour garder la ligne. Donc plus de gros dans les personnages de pub. Et donc je vous disais qu'Élie et Jacquenot étaient en couple à la base. Élie Medeiros, qui était d'origine uruguayenne, a retrouvé ses racines latines et elle a cartonné avec ce titre que vous connaissez. Ça aussi, on connaît.
Ah, c'est bien.
Et ça
c'est
aussi,
bien.
Ça passe encore.
Ah, c'est cool,
avec Ramucho Mata, si je me souviens bien, à la guitare. Toi, mon toit, qui lui aussi était récupéré dans des publicités pour les agences immobilières. Bah oui, le toit. Mais oui, bien sûr.
Quel dommage.
Quel dommage. En même temps, ça lui fait des droits d'auteur.
Ouais,
tant mieux,
vrai,
tant mieux. Au final, l'Underground va se lancer à l'assaut du Top 50. Nouvelle émission de la nouvelle chaîne Canal+, dont le projet était de mettre fin aux hit parades truquées. C'est un peu réussi quand même. À l'époque, les Pink Floyd et les Rolling Stones remplissaient le Palais des Sports. On ne les voyait jamais à la télévision.
Ah, c'est vrai, c'est
je me souviens quand j'étais petit. À la suite de Canal+, est arrivée la chaîne spécialisée TV6, un peu sur le modèle de MTV. C'était la culture du clip, vous vous souvenez évidemment. Et je voudrais finir avec une autre disparue qui est dans ce livre. Elle s'appelle Lizzie Mercier-Desclou. Et elle a peut-être créé le premier tube de world music français sur des rythmiques des Township de Soweto. Elle se posait cette question, mais où sont passées les gazelles ?
Mais où sont passées les gazelles ? Mais où sont passées les gazelles ? Mais où sont passées les gazelles ?
Rien que
personne ne va lui répondre là.
Non, personne ne va lui répondre. Elle n'est plus de ce monde, malheureusement. Lizzie Mercier-Desclou, il y a plein de gens qui sont disparus et qu'on retrouve dans ce livre. Sa vie à elle pourrait être en roman. Le livre raconte également la carrière de groupe absolument sublime dont on n'a pas le temps de parler ici, dont il faut réécouter les albums. Marquis de Sade du côté de Rennes, mais Mathématiques Modernes ou Casse Product. Il y a aussi ceux qui sont devenus des stars, qui sont dans ce livre sans qu'on puisse tout à fait les qualifier de New Wave, comme Alain Bachung ou Lio. Bref, Tout est là, French New Wave, 78-88, une jeunesse moderne. C'est signé Jean-Emmanuel Deluxe aux éditions Fantasque. Je suis content de voir que ça vous a plu.
Ah oui, ah, j'adore la musique, moi. Alors là, si vous moi, les bios, je suis. C'est, ça enfin, c'est pas une bio, mais j'adore ça, moi. Je ne lis que ça.
À l'Hérita quand ils étaient jeunes. Quand ils étaient jeunes et qu'ils s'habillaient avec des sacs plastiques. C'est Culture Média continue. Arnaud Ducret est avec nous. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Arnaud Ducret, That's Life, c'est la vie. C'est le titre de votre nouveau one-man show, c'est à la Gaîté Montparnasse. Dans votre dossier de presse, il y a des chiffres assez impressionnants, Arnaud Ducret. 12 ans de carrière, vous avez tourné dans 9 séries, surtout dans 27 films, qui ont fait 12,7 millions d'entrées.
Chacun.
Non, bien sûr que non. Quand vous penchez sur votre carrière, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites « Waouh, j'en suis là » ou vous dites « Il me reste tout ça à faire ».
Non, il me reste tout ça à faire. Non, surtout, ouais. Il me reste beaucoup de choses à faire, mais c'est déjà bien. Je me dis, bon, j'en avais tellement envie que ça avance. Hein. Voilà, je suis content, je ne vais pas bouder mon plaisir.
Et des rôles graves, vous en aviez envie ou ça s'est imposé à vous ? Je pense à Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais. Parce qu'au départ, vous démarrez comme un imitateur et comme un comique.
Oui, ouais, bah c'est surtout que. Pas imitateur, mais humoriste, mais. Mais comment dire,
imitateur de son.
Oui, ça oui. Mais en revanche, moi j'ai envie de tout jouer. Hein. Moi, à la base, je suis comédien, on dit humoriste, tout ça, mais pour moi c'est la même chose. Donc voilà, maintenant on me propose des choses un peu plus dramatiques et je suis hyper content parce qu'il y en a plein d'autres à qui on ne le propose pas. Donc,
vous étiez dans la série Mensonges avec André Fleurot, TF1. Immense compliment paradoxal. Il y a vraiment une dame dans la rue qui vous a traité de violeur ?
Non, elle ne m'a pas traité de violeur, mais alors même dans mon spectacle, l'autre fois, il y a une dame, je dis, vous savez ce qui m'a le plus manqué pendant 5 ans ? Et en plein spectacle, la fille me dit, le viol ! Une espèce de blanc dans la salle, je dis pardon. Et en fait, elle souriait, elle rigolait parce qu'elle pensait au film. Je dis, bah, attendez, ça n'a rien à voir avec vous. Non, je suis là, bon, d'accord, bon, déjà. Et en fait, oui, et l'autre fois, avec mon fils, elle se retourne, elle me regarde, ça venait juste de passer. Elle me fait, ah, le violeur ! Et j'avais mon petit à côté, bon, il n'a pas entendu, mais j'ai fait « Ah ouais, bon, bah, bonne journée
!» Et sur scène, vous arrivez à faire rire justement avec l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Vous avez fait
oui,
des blagues.
J'ai fait un petit passage là-dessus. Bah, je parle de pendant ces 5 ans, des rôles qui m'ont un peu voilà, marqué tout ça. Et donc je parle de celui de Xavier Dupont de Ligonnès, mais je vous laisserai venir voir le spectacle.
Dans les projets, il y a Tendre et saignant, nouveau film de Christopher Thompson, avec un titre comme ça, vous avez un rôle de boucher.
Oui, j'ai le rôle d'un rôle de boucher, c'est une comédie romantique avec sa femme, la femme de Christopher, Géraldine Pellas, qui est formidable dedans, et ça parle aussi de ce métier qui est le métier de boucher, et je vais devenir un boucher star, mais avec le grand respect que j'ai pour les bêtes, la viande, enfin pour le consommateur, et c'est aussi la confrontation de deux mondes qui sont la mode avec Géraldine, qui va être obligée de reprendre la boutique de son père, et moi. Et on va être confronté à ne pas plonger dans la grande distribution.
Ça sort quand ?
En janvier, ça sort, il me semble, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le 12 janvier, mais j'ai peur de dire, mais c'est en janvier.
Juste un mot, je disais, vous imitiez les sons, vous imitez toujours, vous savez imiter la rocade de Saint-Étienne, la voix du milieu, je l'ai vu dans le spectacle.
Non, j'ai dit à ma mère que je disais que c'était les meilleurs moments quand on pique-niquait avec nos parents, j'ai dit, le problème c'est que moi, ma mère avait toujours le chic pour trouver les meilleurs spots de pique-nique, rocade de Saint-Étienne, voix du milieu. Et donc ça fait à table connard vous allez mourir
génial.
C'est dans le spectacle de Marc-Antoine Lebray. Là maintenant, 10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray et d'Arnaud Ducret. C'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray où chaque jour des stars viennent spécialement pour nos invités. Et ce matin, c'est Nikos qui est passé vous voir. Ouais. Car il vous a suivi à votre mariage pour 50 minutes inside.
Ouais, salut les loups. C'est vrai qu'on a filmé Arnaud pour son mariage avec 50 minutes inside. C'était super. D'un côté, ça a montré que c'était quelqu'un d'hyper accessible. Mais d'un autre côté, ça a montré surtout qu'il voulait pas raquer pour un photographe de mariage. C'est vrai. Bon, sinon Arnaud, j'ai adoré ta prestation dans le biopic sur Grégory Le Marchal. Bravo.
Merci.
Maintenant, j'espère que tu ne comptes pas jouer le père de tous les candidats disparus après la Starac. Sinon, tu vas finir en burn-out. Enrique de la saison 4, Harlem, Tina, Mario, Anne-Laure de la saison 2. Je ne sais pas ce que vous êtes devenus, mais on pense à vous, les loups.
Olivier de Kersauzon a également souhaité réagir à l'annonce de votre mariage.
Ouais, salut. Non, j'ai vu qu'Arnaud, il s'est marié cet été au Mont-Saint-Michel. Ouais, c'est une bonne idée de se marier en Bretagne. Ouais, parce qu'il flotte tellement que quand tu lances le riz, bah, quand il retombe, il est cuit, du coup tout le monde peut passer à table. Oh, c'est malin. Alors je sais qu'il y a un débat par rapport au Mont-Saint-Michel. Les Normands ils disent que c'est en Normandie et les Bretons ils disent que les Normands c'est des cons. On pense aussi à Emma, Houssine, Jérémy de la Starac 2. Jérémy de la Starac 5. Et Jérémy de la Starac 7.
Oui, merci Nico. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a tenu absolument à venir pour vous dire quelques mots, Arnaud.
En ce moment, à Europe, vous mettez bien les loulous. Et je dirais même plus, le Totof, il frétille de la gourmette. Attends, la semaine dernière, vous recevez Tom Villa, qui est fan de sport automobile et qui, au passage, est le co-auteur d'Arnaud Ducret, qui est là ce matin, et qui est aussi fan de sport automobile.
Ouais.
Hey, j'ai l'impression d'avoir chopé le tiercé gagnant. Bon, un tiercé de deux mains, de deux, pardon, mais on va pas chipoter pour un cheval quand on a 300 bourrins sous le capot. Non. D'ailleurs, avec mon club de tuning du Super U de Saint-Martin-les-Eaux, à compter de Montfuron, pour vous situer, tu vois. Donc, on a deux, trois popales à te faire pour que ton spectacle ait de la gueule, mon nono.
Ouais.
Alors, déjà, à la base, dans le théâtre, faut que tu mettes des sièges baquets, Coco. D'accord ? Le totof, il rigole pas avec la sécurité. Un fou rire, c'est comme un coup de frein. D'accord ? Et ensuite, le plus important, tu mets des petits arbres magiques senteur mangue papaye. Parce que 1h30, à rire, à gorge déployée, ça va pas sentir tip-top. Bisous, mes loulous.
On pense aussi à Mathieu et Patchy, qui sont
oui,
pas dessus
bon.
Trop vite.
Oui, merci, c'est bon. Merci, Nikos. Merci, Marc-Antoine Lebray. Merci, Arnaud Ducret. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on va se retrouver demain à 9h pour Culture Média. Nous sommes avec la scénariste Anne Berès pour la série Mytho sur Arte, qui revient pour une deuxième saison. On parlera aussi de son roman La Carte Postale. Et puis, la danseuse Marie-Claude Pietragala qui fête ses 40 ans sur scène dans son spectacle La Femme qui Danse. Juste après le flash, Julia Vignali qu'on a entendu rire dans ce studio avec Mélanie Gomez qu'on a également entendu rire. L'émission s'appelle Bien fait pour vous. C'est dans
Mélanie
quelques secondes.
De la saison
oui.
4.
Le programme du jour.
Alors, comment bien aménager notre espace de travail? Depuis le Covid, vous êtes de plus en plus nombreux à travailler chez vous. On va vous aider à trouver le moyen d'avoir un bureau agréable, aéré et joli, quoi,
oui,
tout simplement.
Bien libéré, tout ça. Et dans le dossier santé, on parlera de contraception, les habitudes des Françaises. Je dis Françaises parce que c'est quand même encore trop, malheureusement, une histoire uniquement de femmes. Quelles sont les habitudes des Françaises en matière de contraception? Voilà, on fera le point dans l'émission.
On vous écoute. Merci beaucoup, Arnaud
Ducret.
C'est
moi. C'est moi.
Merci, Marc-Antoine. Merci, les filles. Merci
Salut.
Tout le monde, merci à vous tous d'être à l'antenne d'Europe 1 puisque vous m'entendez en direct et je vous dis à demain 9h. Salut.